Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGoyeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
C'est 23.
Vous aimez les voitures? Vous êtes intéressé par l'industrie automobile, la transition électrique? Vous voulez être au courant des nouvelles tendances sur le marché? Voici Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna.
On est rendu au mois de juin.
C'est
oui,
vrai.
Oui, on est rendu au mois de juin. Salut Alain.
Bonjour Benoît.
Bienvenue à tous. On étire ça un peu dans quelques semaines. Là, on va passer une période un peu plus estivale. On vous en parlera en plus en détail une fois qu'on sera rendu là. Aujourd'hui à l'émission, Alain, on va recevoir un monsieur qui s'appelle Jonathan Hamel. Uber, parce que là, on a appris qu'Uber a une influence économique de 1,6 milliard de dollars au Québec. Je me rappelle, ouais, j'ai tué bon chiffre en tête.
On va résumer ça en actu, mais ils ont fait un rapport sur leur impact économique parce qu'Uber, on le sait, il y a du positif et du négatif, n'est-ce pas? Ça s'est rentré, cette application-là, assez rapidement dans le marché du taxi initialement.
Oui, puis c'est rentré comme une tonne de briques,
exactement.
Là, on s'entend. Oui.
Et c'est, ensuite, ils se cherchaient un modèle d'affaires plus rentable. Ils sont allés dans la livraison de repas et des choses comme ça. Puis au fil du temps, ils se sont comme installés durablement dans ce marché-là. Puis on va voir à quel point c'est rentré. C'est une habitude maintenant des utilisateurs.
Parfait. On va voir en essai routier, on a fait quoi de ton bar cette semaine?
Ah, j'ai essayé un camion qui a l'air, somme toute, assez banal, le Chevrolet Blazer, mais qui réserve quelques petites surprises. En fait, moi, j'ai de la misère à saisir la marque Chevrolet de façon générale depuis longtemps. Et ce véhicule-là l'illustre bien. Là,
je pense que GM aussi a un peu de misère des fois à saisir. Oui. Parce que à l'époque, quand ça a commencé au tout début avec Louis Chevrolet, là, on recule à 1911. Bon, ben Chevrolet avait été créé pour concurrencer le Ford Model T.
Voilà.
C'était la raison de base. Et Chevrolet devait être la branche économique de GM. Puis de fil en aiguille, une Corvette s'est ramassée là, une Camaro s'est ramassée là. Pontiac était la branche sportive. Mm-hmm. Oldsmobile était comme l'entre-deux, pas aussi haut que Cadillac, mais plus pratique que Buick. Mais c'est parce que là, maintenant, on a tellement multiplié les marques.
À l'époque, il y avait 14 marques, ouais, c'était bien lent.
On ne savait plus où qui allait quoi, comment.
Le Blazer existait dans les années 90. Ouais. Il y a longtemps. Il est un petit peu disparu, il est un petit peu revenu. Il y a eu le Trailblazer. Donc, pour être bien mêlé, il y a de quoi l'être. Puis là, ben, il revient en version... Et on va l'avoir en plus en électrique au printemps prochain. Donc, j'ai essayé un de ces nombreux véhicules.
Un de ces nombreux véhicules. Moi, cette semaine, ben, je vous avais parlé la semaine dernière que j'avais laissé le Mercedes EQE.
Oui.
Bon, ben là, on va en parler cette semaine. Ça va être mon essai. Et d'abord, évidemment, tu as parlé de nouvelles. Ben, parle-nous-en donc un peu plus en détail de Tesla. Là.
Ben, justement, on va parler de notre ami Elon Musk et de sa marque de voiture automobile électrique, mais aussi, surtout, du modèle Y, parce que le modèle Y est devenu, là, au fil des trois derniers mois, la voiture la plus vendue dans le monde. Il s'est vendu très exactement 267 171 exemplaires du modèle Y de Tesla durant les trois premiers mois de 2023.
Oui, et on précise que c'est les premiers trimestres 2023. Les gens nous disent « Hey, il s'est vendu plus de Corolla, il s'est vendu plus de Beetle. » Oui. Mais je veux dire, pour les trois premiers mois
exactement,
de l'année.
Exactement. Oui, on va le répéter. Et de l'année en cours, dans le monde. Donc, pas juste au Canada, ou pas juste au Québec, ou pas juste quelque part dans une... Mais, globalement, ça lui permet donc de se surpasser justement là, en termes de popularité la Toyota Corolla et de devenir, pour l'espace de trois mois, la voiture la plus vendue sur la planète. Ça pourrait évidemment s'étirer sur une plus longue période, là, mais bon, évidemment, il faudra voir pour la suite. Entre-temps, là, cette nouvelle est, à mon avis, en tout cas, indicatrice d'au moins trois tendances. La première est la plus évidente, c'est que peu importe ce que vont dire leurs détracteurs, les véhicules électriques, ben clairement, sont en demande, les consommateurs en veulent. Hein. On peut dire sans trop se tromper que le virage électrique de l'industrie automobile là, est bien parti pour se faire. Là où il y a des véhicules, il y a des acheteurs, disons-le comme ça. Peut-être qu'il ne se fera pas tout à fait dans les temps prévus ou espérés, là, vu les échéances quand même assez rapprochées imposées par plusieurs gouvernements que les constructeurs trouvent donc pressantes et urgentes et incapables à être respectées. Ça inclut évidemment les exigences canadiennes. Il y a des cibles en 2030 et en 2035. Mais quand même, on sent que les acheteurs sont au rendez-vous. Autre tendance majeure, ben plus les prix baissent, évidemment, plus les acheteurs s'empressent d'acheter un véhicule électrique. Déjà, là, Tesla a coupé les prix à plusieurs reprises sur plusieurs de ses modèles, dont le modèle Y depuis la fin 2022. Et évidemment, ça n'a pas nui à sa popularité, bien au contraire. En ce moment, les analystes pensent que la stratégie de Tesla est suffisante pour que le modèle Y devienne le véhicule le plus vendu dans le monde pour l'ensemble de 2023. On s'en reparlera en janvier prochain.
Oui, effectivement.
Mais quand même, c'est...
Comme dirait l'autre, il va encore couler beaucoup d'eau sous le pont.
Exactement.
Ou les ponts, mais c'est quand même assez exceptionnel qu'un véhicule électrique, puis pas abordable par-dessus le marché...
C'est pas le plus abordable de Tesla, non, exactement.
Non,
ça,
non.
C'est un truc.
Soit en tête des chiffres. Puis écoute, on en voit, là, des modèles Y.
Exact.
Moi, j'en vois 12 par jour. Là.
Exact. Et c'est un peu la troisième tendance que je remarque dans cette nouvelle-là, c'est que les VUS, clairement, ont la cote partout sur la planète. Hein. C'est pas juste chez nous, c'est pas juste les VUS à essence ou peu importe. Le modèle Y coûte quand même un peu plus cher que le modèle 3, la petite berline électrique, qui est essentiellement le même véhicule, mais en plus petit. Normalement, le modèle 3 devrait être plus populaire vu le prix, mais c'est clairement pas comme ça que ça se passe. Mmh. Cela dit, bon, alors évidemment, ça va plutôt bien pour Tesla, on se le cachera pas, mais ça pourrait se compliquer un peu. Des analystes s'inquiètent que son succès, et ça revient à tous les trois mois, là, que son succès repose trop lourdement sur les deux véhicules les plus abordables de sa gamme, les 3 et Y, alors que les autres constructeurs, eux, s'en viennent avec leur propre nouveauté. Mais ça fait comme 5 ans qu'ils s'en viennent, puis clairement, ils sont pas encore arrivés
à ce
point-là.
Oui, mais tu sais, on en a déjà parlé à l'émission, au-delà du modèle tout court, au-delà du prix, il y a le modèle d'affaires aussi de Tesla qui est loin devant tout le monde, mm-hmm. parce qu'on n'a pas de concessionnaire à supporter, on n'a pas d'inventaire à supporter. On achète ça par Internet.
Exact.
Et là, les autres constructeurs ont réalisé que, c'est vrai que, mais là, si on veut aller là, faut que tu transformes un modèle centenaire en un nouveau modèle, alors que Tesla, eux autres, ont décollé comme ça, puis tu regardes...
C'est pas le passif, ouais, d'avoir fait autre chose avant.
Ben voilà, mm-hmm. puis tous ceux qui ont commencé, là, regarde Lucid, regarde Lordstown, regarde Bollinger, regarde toutes les startups, les jeunes pousses, s'en vont tous sur le modèle d'affaires de Tesla, puis t'as même des compagnies comme Ford qui se disent... Hey, sais-tu, c'est pas une mauvaise idée. Moi, j'aimerais bien ça. Là, Jim Farley, là, qui s'est associé à Ford pour à Tesla pour le système de recharge. On va aller en NACS, alors qu'on était en CCS, comme à peu près tout le monde. Lui a même dit, moi, j'aimerais faire un prix fixe, puis que les gens commandent par Internet. Là, on va faire des points de service, mais c'est une sacrée bonne idée.
C'est pour ça qu'on divise la compagnie en deux. Hein?
Ben oui, mm-hmm. mais as-tu pensé, toi, tout le travail que ça comporte? Il faut que tu déconstruises un modèle d'affaires pour en monter un autre. On fait pas ça en 2 ans, là, mm-hmm. ni même en 5 ans. Là.
Non, ça va changer beaucoup.
C'est pour ça que Tesla, lui, continue sur son air d'aller, parce qu'il est parti avec une formule, puis il a gardé la même tout le long.
Il peut vendre facilement n'importe où sur la planète sans avoir bâtir une infrastructure de distribution aussi compliquée qu'un réseau de concessionnaires, effectivement.
Exact. Fort intéressant. Autre nouvelle.
Ben, écoute, on va recevoir un porte-parole tantôt. Alors, aussi bien aller tout de suite de front sur cette nouvelle-là. Uber évalue à 1,6 milliard son impact économique au Québec en 2022. Moi, j'ai plein de questions à poser tantôt, fait que j'ai hâte d'en parler, mais on va tout de suite évacuer les chiffres de la conversation, comme ça on le saura. Ce montant-là, là, 1,6 milliard, ce sont les revenus de ses chauffeurs, de ses livreurs, ainsi que les revenus additionnels générés grâce à son application par les commerçants et les restaurateurs partout au Québec en 2022.
Au Québec, il faut le préciser. 1,6 milliard, c'est
sur l'ensemble de l'année dernière. Donc, c'est quand même un contexte où on finissait un peu la pandémie, mais pas trop, où on recommençait à faire les choses normales. Donc, la demande pour ces services-là était moitié-moitié. Évidemment, chez Uber, on conclut, vu ces chiffres-là, que la présence au Québec est positive, ce qui peut être débattable, si par exemple, on est un ancien chauffeur de taxi ou quelque chose comme ça. Pour plusieurs, là, Uber a encore beaucoup à se faire pardonner aussi, il faut le dire. Le service de taxi incarne un modèle économique qu'on a appelé l'économie des petites job-in, le fameux gig economy.
Oui.
Ça fait une dizaine d'années qu'on en parle. Dans ce contexte-là, les gens doivent accumuler des petits boulots très précaires et pas toujours très payants pour subvenir à leurs besoins. Et durant la pandémie, le service de livraison de repas Uber Eats a aussi été pointé du doigt pour les frais élevés imposés aux restaurateurs qui refilaient la facture aux clients et qui finissaient par payer cher.
Finalement. J'ai même vu des restaurants qui ont fini par sortir Uber Eats parce qu'ils payaient trop d'intérêt à Uber.
Exactement.
Alors ça devient... Puis surtout que les commerçants étant un peu égorgés pendant la pandémie par-dessus le marché.
Ouais, et les... je sais pas, moi, quand j'étais ado, on pouvait être livreur de restaurant facilement. Je sais pas où sont partis ces modèles-là plus ancien, disons-le comme ça. Mais bref, Uber Eats s'est un peu imposé avec DoorDash et les autres. Bref, pour redorer son blason, là, Uber a publié ce fameux rapport là, cette semaine ou la semaine dernière là, qui détaille ce que le service californien estime être son impact économique. Ce qui est intéressant aussi, à part des chiffres comme tels, c'est que Uber dit avoir observé un regain de popularité en 2022, notamment du côté du nombre de chauffeurs et de livreurs qui utilisent sa plateforme. Et évidemment, la raison évoquée, c'est en raison de la hausse du coût de la vie provoquée par l'inflation élevée qu'on connaît depuis environ un an. Ironiquement, Uber Eats fait partie du problème parce que les aliments coûtent plus cher quand on se fait livrer avec ce service que ce que ça coûtait avant. Uber est dans la grande majorité des cas là, un deuxième emploi pour les gens qui l'utilisent. 66 % des chauffeurs disent l'utiliser pour faire des revenus supplémentaires, la plupart ayant un véritable boulot plus payant en fait que ce qu'ils disent en offrant leur service sur Uber. d'ici, du côté d'Uber Eats, Uber dit que les restaurateurs ont empoché 201 millions de dollars en revenus de plus que ce qu'ils auraient empoché sans utiliser Uber Eats. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle pour eux. Les épiciers aussi en profitent, semble-t-il. Je ne savais pas, mais on peut aussi commander des aliments, des articles d'épicerie à travers l'application. Et enfin, du côté du transport, transport de personnes, donc du côté taxi, finalement, Uber continue son virage électrique. Le service promet que tous ses chauffeurs vont avoir des véhicules électriques au plus tard en 2030.
Okay.
On dit que les Québécois sont, avec les jeunes Colombie-Britanniques, les Canadiens, les plus susceptibles de payer plus cher, de vouloir payer plus cher. Ça, je pense que ça sonne à un spin marketing, parce que moi, personnellement, payer plus cher,
non,
ça me tente
non,
pas.
Non, non,
mais
non,
ils seraient prêts à payer plus cher.
Je m'en vais à telle place, puis je regarde toujours c'est quoi le moins cher.
Ouais, et des fois, on prend la fortune au partage, parce que justement, c'est encore moins cher. Mais semble-t-il bon, qu'on paierait plus pour avoir un transport électrique. Et message à Théo Taxi, j'espère que vous écoutez ça, parce que
oui,
ça serait une bonne nouvelle pour vous aussi.
Ça serait une bonne nouvelle pour eux. Tiens, tu parlais de Tesla, je vais en venir avec Tesla, parce que Ressources naturelles Canada a fait le point sur l'infrastructure de recharge des véhicules électriques au Canada en révélant que Tesla va ouvrir une partie de son réseau de supercharger aux véhicules non Tesla à partir de cette année. En fait, on parle de 750 bornes au pays d'ici la fin 2005. Donc, ça va se faire progressivement. On parle au départ d'un corridor qui va faire Ottawa-Sudbury du côté de l'Ontario. On va étirer ce corridor-là sur Québec-Ottawa après. Donc, ce sera un Québec-Ottawa-Ottawa-Sudbury. Puis de Sudbury, on va s'en aller zim, vers Calgary. Donc, il y a une espèce de triangle qui vient un peu vers l'est, qui va vers l'ouest de l'autre côté.
On pourrait mettre des éléments de divertissement aussi sur cette route-là pour rendre ça
ben,
plus fun à conduire.
Oui, oui, parce que, Seigneur, tu l'as fait l'Ontario, toi, vers l'ouest?
J'ai fait, oui.
Si tu t'endors pas, c'est un exploit. Écoute, c'est long l'Ontario, longtemps. On dit que c'est long le Québec, là. Mais quand t'arrives à Brandon au Manitoba, tu dis, ah, Seigneur, on vient de sortir de l'Ontario. Mais non, écoute, ça prend deux jours. Littéralement, on finit plus d'arriver. Mais ce que ça dit, en fait, c'est que là, ben, ça ouvre la porte. Puis c'est drôle parce que j'ai parlé avec des gens qui sont propriétaires de Tesla cette semaine. C'est un peu mitigé parce qu'ils se disent ouais, ben moi c'est un avantage d'acheter une Tesla, j'ai mon propre réseau de recharge. Là,
m'a faire
quoi si j'ai un Mach-E ou si j'ai un je sais pas moi, un ID4 ou autre véhicule électrique qui est aux bornes où je devrais aller. Ceux évidemment qui ne sont pas Tesla sont contents parce que Tesla, ce n'est que des recharges rapides. Il y a pas, c'est du 150 kW ou du 250 kW. Puis là, on est rendu à parler d'ouvrir des 350 kW du côté de Tesla. Les V4, là, on a des V2, V3, V4. Donc, à 350, là, bon, ce ne sont pas tous les véhicules qui peuvent y aller, mais ça va aller vite. Écoute, moi, je l'ai fait, puis sur un 150, le plus petit des deux, qu'il y a en ce moment, puis en 45 minutes, je suis allé de 5 à 90% dans le Tesla que j'avais. Ça, c'est le temps d'aller prendre une soupe, d'aller t'étirer les jambes un peu, de revenir, puis t'es reparti. Là. Fait que c'est pas...
C'est un gros avantage.
C'est un avantage, et c'est pour ça que beaucoup de gens en ont. On va voir, on a déjà commencé à ouvrir, d'ailleurs, ce réseau-là du côté de l'Europe, du côté des États-Unis, puis on va probablement aussi ouvrir d'ici... On parle de 750, là, c'est quand même une bonne partie de ce qu'il y a. Alors, on va regarder ça. Autre nouvelle, vous aurez bientôt du lait dans votre réservoir à essence.
Ça, c'est un problème, là.
Ouais, mais attention, c'est pas du lait, c'est pas du vrai lait. Ah. En fait, c'est que tu connais le principe de transformer du maïs en éthanol et d'ajouter l'éthanol à l'essence. Bon, mais là, il y a une compagnie en Ontario et un producteur de lait au Michigan qui ont développé une formule pour transformer ce qu'on appelle le perméa, qui est comme le liquide du lait, de transformer ça en éthanol.
Okay.
On en produit naturellement beaucoup quand on transforme le lait, quand tu fais du 3,25, du 2, du 1 ou du 0. Et on fabrique ce qui ressemble un peu à de la vodka. En fait, on en a fait pendant la pandémie des alcools pour désinfecter, donc des alcools non comestibles pour l'être humain, mais des alcools qui désinfectaient. Et le système est bon aussi pour faire de l'éthanol. Donc, on va faire de l'éthanol. Et là, on a déjà investi 41,1 millions de dollars dans ce qu'on appelle un nouveau biocarburant, parce que c'est un biocarburant, c'est à base de lait. Il y a déjà un projet d'agrandissement de l'usine de 30 000 pieds carrés dans le sud-ouest du Michigan. Et on a mis des vaches au service de l'industrie automobile. C'est-à-dire que
du léthanol.
C'est du léthanol. Donc, on va travailler là-dessus. On parle d'ajouter une usine d'éthanol à proprement parler de 8500 pieds carrés. Et on va produire comme ça, on appelle ça, c'est le lait à base de vodka, on appelle ça de la vodka.
Oh, hein?
Oh, c'est le joli jeu de mots en anglais. Mais on parle, et c'est beaucoup moins, parce que là, il y avait beaucoup de commentaires négatifs à propos du maïs, parce que là, on disait, écoutez, on prend des chantiers, puis du maïs, on s'entend, là, c'est propre à la consommation humaine. Parlera aux Mexicains, là, que le prix du maïs a plus que doublé là, depuis 10 ans. C'est la nourriture de base des Mexicains. Et ces gens-là hurlaient avec raison. Et là, ben le Permea, comme ça, ça sert à rien. C'est-à-dire qu'on l'enlève du lait et on a un résidu. Fait que c'est beaucoup plus intéressant d'utiliser cette forme de biocarburant-là pour faire de l'éthanol, si on veut, le lait, que de prendre du maïs. Fait que là, ça, c'est une première usine, mais on parle qu'il y a déjà plus de 1000 producteurs laitiers qui possèdent des usines de transformation. Et là, on va tenter d'embarquer, parce que bon, des producteurs laitiers, on en boit du lait, il y a 385 millions d'Américains. Mm-hmm. Alors, on pourrait probablement produire assez de dérivés de lait pour faire de l'éthanol pour beaucoup, beaucoup d'essence. Alors ça va être à surveiller. On prend une première pause, nous, et on revient avec notre invité Jonathan Hamel de chez Uber.
Ici Patrick Marcellet. Dans la deuxième saison de mon balado Relève-toi, je reçois des personnalités d'ici qui ont su se relever après de difficiles épreuves.
Écoutez dès maintenant l'épisode avec José Boudreau.
Je regarde jamais en arrière, c'est fini, on va faire avec ça. Tu te dis, hein, maman maintenant a moins de mots qu'avant. Je pense que tout le monde était content.
Relève-toi, disponible dans la section balado du site web de votre station Cogeco Média.
Présenté par le regroupement des centres de prévention du suicide du Québec. Ensemble, tissons l'espoir.
Vous écoutez « Ça tient la route » avec Benoît Charrette et Alain McKenna.
On en parlait d'entrée d'émission dans les nouvelles. On dit que Uber a fait 1,6 milliard de dollars au niveau des entrées d'argent au Québec. Ben je pense qu'on va un peu parler de ça, parler aussi du modèle d'affaires d'Uber. Ça n'a pas fait le bonheur de tout le monde. Mm-hmm. Avec M. Jonathan Hamel, qui est du groupe Uber. Merci d'être là, M. Hamel.
Ben merci à vous de m'inviter.
Jonathan, écoute, on a parlé un petit peu avant la pause du rapport que vous avez publié là, il y a quelques jours sur l'impact économique d'Uber au Québec. Un impact quand même non négligeable de 1,6 milliard. Est-ce que vous avez des statistiques sur, parce que ça a toujours été une conversation ça, qui a fait un petit peu de controverse, là, mais combien le salaire, mettons les revenus moyens d'un chauffeur Uber en ce moment, ça s'évalue à quel montant?
Oui, ben les chiffres les plus récents que j'ai, c'est pour Montréal, puis ça remonte à décembre dernier, donc décembre 2022. Mm-hmm. Puis pour un chauffeur qui conduisait 20 heures ou plus par semaine à Montréal, là, le revenu médian équivalait un peu à 33 $ de l'heure, qui est le revenu qui recevait. Bien entendu, il y a des dépenses qui sont liées à ça. Là. Mm-hmm. Il y a une étude qui a été faite à Vancouver il y a un an ou deux maintenant. Puis ça statuait qu'environ les dépenses, ça équivalait à peu près à 5-6 $ de l'heure là, pour les chauffeurs.
Après les dépenses, tout ça?
Non, les dépenses, ça équivaut à peu près à 5-6 $. Okay. Exactement. Donc, on peut prendre le 33 moins 5-6. Là, 5-6, c'est un chiffre comme ça. Là, c'est une étude de Vancouver. Mm-hmm. Mais ça donne une bonne idée quand même. Là.
C'est intéressant, ça. Est-ce qu'il y a, y a combien de chauffeurs au Québec, exactement?
Il y a plusieurs milliers. Je peux pas donner de nombre parce que tu sais les chauffeurs là chez nous c'est pas nos employés. Mm-hmm. Puis ils travaillent comme qu'ils veulent, quand qu'ils veulent. Ils nous appellent pas pour nous dire quand est-ce qu'ils vont travailler. Puis ce qu'on a remarqué le dernier trimestre de 2022, c'est là qu'on a eu la plus grande inscription depuis plusieurs années au Québec. Okay. On a sondé les nouveaux chauffeurs pour leur demander qu'est-ce qui les incitait à joindre la plateforme. Puis en très très grande majorité, ce qu'ils nous ont répondu, ben c'était pour contrer la hausse du coût de la vie. On le sait tous, on vit l'inflation quasiment au quotidien, tout le monde là.
Oui.
Fait ils se sont inscrits pour contrer l'inflation. Puis la grande majorité de ces gens-là, des nouveaux chauffeurs, nouveaux livreurs, à 71%, il y avait déjà une autre source de revenus.
Mm-hmm.
Fait que qu'est-ce qu'ils aiment? Pourquoi est-ce qu'ils joignent la plateforme? C'est vraiment la flexibilité qui est offerte. Ils peuvent travailler comme qu'ils veulent. Ils peuvent travailler quand qu'ils veulent. Puis ils peuvent surtout moduler leur horaire en fonction de leur autre emploi qu'ils ont. Hein.
C'est vrai, on en parle moins souvent de ça, comme l'autre partie du l'autre bord du miroir, je devrais dire, la partie plus chauffeur. Là, mais quand on s'inscrit sur Uber, évidemment, on punche pas comme dans un travail de 9 à 5, il n'y a pas d'horaire fixe. Et quand on devient chauffeur de personnes et aussi pour Uber Eats, donc de repas et de choses comme ça, peu importe ce qu'on... On livre n'importe quoi, d'une certaine façon. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne?
En fait, il y a une distinction entre les deux, parce que, bien entendu, si on transporte des gens... L'aspect sécuritaire est plus important que d'en transporter des repas. Là. Mm-hmm. Donc, il y a des spécificités pour devenir chauffeur de personnes, pour devenir livreur de repas, où maintenant on livre l'épicerie. On a marqué l'année passée là, qu'il y a à peu près 50% des utilisateurs du Uber Eats au Québec qui se sont aussi fait livrer de l'épicerie, des repas pour animaux, ainsi de suite. Mm-hmm. Donc, mais ils peuvent le faire en même temps. Ils peuvent à la fois être chauffeurs et livreurs, parce que c'est super important que les gens comprennent, là. Les chauffeurs, les livreurs, ils font qu'est-ce qu'ils veulent, bien entendu, il faut qu'ils respectent les lois, mais c'est pas nos employés. Donc, ils peuvent travailler une semaine, 5 heures, la semaine suivante, 25 heures, puis ils n'ont aucun compte à nous rendre, là.
Est-ce qu'il n'y a pas parce que ça a été critiqué ça aussi pendant un bout de temps, ça crée une certaine précarité chez les chauffeurs Uber, ou c'est pas quelque chose que vous observez de votre côté?
Je vous invite, là, les gens qui nous écoutent, là, quand vous embarquez avec un chauffeur, demandez-lui pourquoi est-ce qu'il fait ça. Mm-hmm. Puis on les a sondés, là, dans le récent rapport. 93% nous disent c'est la flexibilité. Ils ont besoin, justement, de la flexibilité. Puis là, on le voit, là, récemment avec l'inflation, j'en parlais tantôt, les gens sont tournés vers la plateforme pour aller gagner des revenus supplémentaires, parce que souvent, leur emploi principal, malheureusement, leur permet pas de boucler leur budget. Les chauffeurs, ils aiment la plateforme, ils aiment l'utiliser pour travailler, puis ils aiment cette option-là. C'est un peu un genre de... Ça leur offre une certaine sécurité. Ils savent qu'ils l'ont au besoin, puis quelqu'un peut avoir un coup dur puis décider qu'ils vont travailler, pardon, de l'utiliser pendant quelques semaines, puis après ça, pas l'utiliser, puis le temps des fêtes arrive, ben il veut gâter ses proches, ben il utilise l'application pour travailler, puis ils ne réutilisent pas de l'année. Donc, les gens ont vraiment la pleine flexibilité. Puis c'est un peu ça qui ressort un peu du rapport que je trouvais. Là. Les gens, en 2023, ils aiment se simplifier la vie. Je pense surtout au volet des livraisons, dans ce cas-là. Mm-hmm. Mais ils aiment la flexibilité que ça amène. Puis autant les deux côtés, là, autant que le consommateur que le chauffeur ou le livreur. Là.
Puis, Jonathan Hamel, je me posais la question. Il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de maximum. Est-ce que on doit... Bon, il y a une application. Comment est-ce qu'on dit, là... chauffeur dit, moi, demain matin, 6 heures, je vais aller faire du Uber. Quoi. On se rend disponible, on embarque sur l'application?
Exactement. Bon, il y a un processus qui est rigoureux pour devenir chauffeur. Là, ça prend une formation. Vérification des antécédents judiciaires, inspection du véhicule, ainsi de suite. Mais bon, disons que tout ça est fait. Bien, tout ce qu'on a à faire en bon français, c'est de mettre d'activer l'application, de la mettre à on. Puis quand on veut commencer à conduire, on la met on. Puis il va y avoir des demandes de course qui vont rentrer, puis là, la journée commence. Puis le chauffeur, il en fait comme qu'il veut. Bien sûr, il y a une limite là, de temps. Il ne peut pas en faire 24 heures par jour pendant 7 jours par semaine. Là. Mais dès que la personne veut commencer, elle ouvre l'application. Puis quand elle décide qu'elle en a assez, soit qu'elle a assez travaillé dans son espace.
Bon, moi, je donne l'exemple parce que j'utilise Uber, moi, surtout pour aller à l'aéroport, nos déplacements de presse, parce que nous, souvent, on part le lundi, on ramène des véhicules de presse, et je dois l'admettre, la beauté d'Uber, c'est qu'en 4 minutes, à peu près n'importe où je me situe, il y a un chauffeur qui arrive.
Oui. Comment il n'y a pas de train à l'aéroport.
Non, il n'y a pas de train à l'aéroport.
Uber, c'est une option, c'est vrai.
Mais comment ça fonctionne, moi, par le moment où, sur mon application, je demande à Uber, ça va où, puis comment est-ce qu'on trouve le chauffeur le plus près?
Oui, c'est un équilibre qui est fait entre le plus près, mais aussi l'application va prévoir les demandes de course qui sont à venir. Fait dans le fond, nous autres chez Uber, on est toujours en train de jongler entre on veut que le chauffeur ait le meilleur revenu possible, mais on veut que le client, lui, ait un service le plus rapide possible, mais aussi que ça coûte le moins cher possible. Donc, l'application va jongler avec ces variantes-là pour faire en sorte que si vous êtes chez vous lundi matin, il est 5h30, puis vous demandez une course vers l'aéroport, bien, l'application va trouver le chauffeur qui est le mieux situé pour vous rendre ce service-là. Là.
J'utilise aussi Uber depuis assez longtemps parce qu'à l'époque, ça apportait une certaine... je veux dire, un certain confort de plus qu'un taxi traditionnel où souvent c'était des vieilles Camry qui avaient une suspension arrière un peu maganée, tout ça. Puis donc, on a pris dans des voitures qui étaient des voitures de particuliers qu'ils utilisaient pour faire du transport comme ça. Ça a quand même beaucoup changé depuis le temps, Uber. Là, récemment, il est apparu des petites étiquettes jaunes dans les lunettes arrière des véhicules qui font soit qui utilisent Uber ou d'autres plateformes de voitures à la demande. Là. Est-ce que c'est un enregistrement qui est nécessaire auprès du gouvernement, cette étiquette-là? Qu'est-ce que ça signifie?
Oui, exactement, c'est ça. Donc, en 2019, le gouvernement de Québec a déposé et fait adopter une loi qui a complètement réformé l'industrie. Mm-hmm. Maintenant, nous, on est régi par cette loi-là. Puis justement, la vignette, là, les chauffeurs doivent l'utiliser quand ils sont en fonction, ils doivent l'installer, pardon. C'est pour démontrer qu'effectivement, ils sont autorisés. Parce que tantôt, je faisais référence, c'est vraiment pas n'importe qui peut devenir chauffeur. C'est simple, il y a un processus rigoureux à suivre qui assure une certaine sécurité, mais une fois que les étapes sont franchies, on peut prendre la route, mais oui, il y a un encadrement qui est très strict. Là.
On parlait de l'aéroport, il y a quelque chose dans l'actualité depuis un bout de temps, il y a des faux taxis à l'aéroport, ouais. c'est même un problème, et c'est pas juste à Montréal, là. Il y a des endroits dans le monde où c'est encore pire, mais bon, ça existe à Montréal. Est-ce qu'en passant par Uber, on se prémunit de ce problème-là, ou est-ce que ça peut faire partie de... Du fait que c'est brouillé, que c'est pas clair qui fait quoi vraiment dans le transport?
Ben, en fait, moi, je me suis rendu moi-même à l'aéroport à plusieurs reprises pour en discuter avec les gens de l'aéroport. Il y a des chauffeurs qui m'appellent sur mon cellulaire pour me parler d'histoires qu'ils ont vécues. La situation, c'est qu'il y a des gens qui offrent du transport illégal. Ça veut dire qu'il y a un chauffeur qui se présente au débarcadère puis qui va voir les touristes ou les gens qui viennent à la maison. Puis qu'ils leur disent, bon, ben, tu m'en vas au centre-ville, donne-moi 15$ cash, puis je t'amène. Tu sais.
Ah oui.
Bien entendu, c'est illégal. C'est pas une expérience qui est agréable là, pour les touristes. Là,
non, puis moi, je me suis fait harceler là, par des gens. Beaucoup, quand, oui. Moi, je me suis fait, en sortant, ils se mettent exactement à la sortie du côté des vols domestiques au tout début de l'aéroport. Là, puis si tu passes là tu te fais achaler pour le vrai. Là.
Ben, exactement. C'est super désagréable. Fait que ce que je peux dire aux gens, c'est si vous voulez prendre un Uber, commandez une course avec l'application. Puis là, il y a des mesures qui sont mises en place. On salue ces mesures-là. Là, j'ai fait plusieurs représentations au courant des derniers mois pour que ces mesures-là se mettent en place. Il y a plus d'encadrement, plus de sécurité à l'aéroport, puis ça va se faire. Mm-hmm. Mais oui, si on utilise l'application, on commande la course via l'application, puis le chauffeur va arriver. Ça la porte 7 si on est domestique, ça la porte 20 en bas si on est domestique ou 7 en haut si on est international. Puis on se présente à la porte, puis le chauffeur arrive, on s'assure que la plaque est celle qui est affichée dans notre application. Comme ça, on sait que c'est le bon chauffeur, on est en sécurité, puis il n'y aura pas de surprise. Souvent, les gens pensent qu'on est une compagnie de transport ou de livraison, mais nous, on est une compagnie de technologie. Fait que ce qu'on fait vraiment avec l'application, c'est qu'on vient aussi mettre la technologie au service de la sécurité. Je faisais référence là, tantôt, la plaque est affichée sur l'application, comme ça on sait exactement la personne qui a la plaque dans le bon véhicule. Mm-hmm. On peut partager sa course avec ses proches, comme ça les gens peuvent nous suivre pour s'assurer qu'on arrive en bon port, à bon temps, et ainsi de suite. Donc oui, il y a vraiment une plus-value à utiliser l'application à l'aéroport, là, c'est certain. Là.
Je vais terminer avec la question qui tue.
J'en ai une après, mais encore meilleure, je suis sûr.
Comment vont vos relations avec les taxis, les fameux taxis qui, eux, avaient...
Alors, j'ai une sous-question à ça, moi, parce que j'ai pris un Uber cette semaine et c'était aussi un taxi. Donc clairement, ça doit aller bien comme relation. Là.
OK.
Ben oui, justement, quand le gouvernement a déposé sa loi, un des éléments de cette loi-là, c'est ça a tout réformé. Fait que nous, maintenant, on n'a aucun problème à ce que les chauffeurs de taxi utilisent l'application pour prendre des courses. Puis je reviens à ce que je disais initialement. Nous, les chauffeurs, ce ne sont pas nos employés. Ils travaillent comme qu'ils veulent, puis c'est ça qu'ils aiment. Fait que nous, qu'il y ait des chauffeurs de taxi sur l'application, c'est tant mieux. Puis je vous dirais, les relations avec l'industrie, je peux dire en général, elle est bonne. On se voit 4 fois par année à peu près avec le gouvernement. Puis première des choses, il y a l'eau a coulé sur les ponts depuis. Mais deux, la demande est très forte. Puis la pénurie de main-d'œuvre, ça frappe tout le monde. Fait que le résultat de ça, ben c'est qu'en ce moment, il y a presque personne qui est capable de répondre à la demande. La tarte, je peux dire ainsi, là, il y a assez de pointe pour tout le monde. Fait que, puis aussi, tout le monde travaille dans la même industrie. On veut tous que les clients aient un meilleur service. Quand tantôt on parlait à l'aéroport, ben, que les touristes qui arrivent, souvent après les douaniers, ben, la première interaction qu'ils ont, ben, c'est avec un chauffeur qui utilise Uber ou un chauffeur de taxi. Fait qu'on veut que ça se passe bien, non?
Je veux dire, la pire expérience que j'ai eue dans un Uber, c'était ce chauffeur de taxi-là, traditionnel, qui avait aussi Uber sur le site. Donc, c'était ça m'a rappelé d'ailleurs pourquoi Uber, au début, a été populaire auprès des consommateurs. Parce que c'était pas mal plus le fun comme expérience.
C'était une meilleure expérience.
Un vieux taxi avec un plexiglas qui est pas de climatisation et tout le reste. Donc, c'était vraiment une grosse différence. Moi, je vais poser c'est comme un post-scriptum à notre entrevue, Jonathan, juste parce qu'on en parlait. Je me rappelle de m'être assis avec un OVP d'Uber à une époque où, qui était un ancien ingénieur de la NASA qui nous parlait des Uber volants autonomes électriques d'une autre époque. Est-ce que c'est encore quelque chose dont vous rêvez chez Uber ou ça a été un petit peu remisé, ça? J'imagine que la réponse est
bien, deux choses relatives. Première des choses, la pandémie, comme tout le monde, là, ça fait mal, mais nous autres, la business s'est effondrée 80% pendant la pandémie. Là.
Ah oui.
Fait qu'il y a eu un impact financier assez majeur. Mais les véhicules autonomes, la semaine passée, lundi passé, on a annoncé un nouveau partenariat dans lequel, là, bien entendu, on fait de la recherche et du développement. Mais oui, on est toujours à l'avant-garde, toujours en train de réfléchir quelle sera la prochaine option de transport. C'est vraiment ça notre vision, hein, chez Uber. C'est, on veut offrir une option supplémentaire au monde qui se déplace, aux gens qui se déplacent, aussi aux objets, quelqu'un qui a besoin de se faire livrer quelque chose. Puis on veut concentrer tout ça dans l'application. Fait que maintenant, au Québec, on peut louer une voiture via l'application. On peut se déplacer. On peut demander une course avec un véhicule électrique, si on veut. Il y a plein d'options comme ça. Fait que c'est vraiment notre vision. Puis oui, c'est sûr qu'on est à l'avant-garde. Puis c'est comme ça que l'application est née. Puis ça fait partie de notre ADN, là.
Ben, écoutez, un grand merci, Jonathan, pour ta présence à l'émission aujourd'hui. Je pense que ça nous a donné un petit peu plus...
Un beau portrait d'Uber.
Un beau portrait, effectivement. Ouais. Puis, s'il y a d'autres profits et d'autres chiffres d'affaires dans ce style-là, on se redonne rendez-vous pour l'année prochaine, on en parlera.
Ben, merci à vous deux, bonne fin de journée.
Merci. Salut. Alors, merci à Jonathan Hamel pour sa présence de chez Uber. Nous, on va à la pause et on revient ensuite avec la chronique Écoloto et nos essais routiers.
Ici Patrick Marcellet. Dans la deuxième saison de mon balado Relève-toi, je reçois des personnalités d'ici qui ont su se relever après de difficiles épreuves.
Écoutez dès maintenant l'épisode avec Marianne Saint-Gelais.
J'étais pas fière de mes médailles. Je me disais, ils m'apportent absolument rien. J'ai pas plus de vie, j'ai pas plus d'amoureux, j'ai pas plus de famille, j'ai pas plus de scolarité, j'ai absolument rien.
Relève-toi, disponible dans la section balado du site web de votre station Cogeco Média.
Présenté par le regroupement des centres de prévention du suicide du Québec. Ensemble, tissons l'espoir.
Vous écoutez « Ça tient la route » avec Benoît Charrette et Alain McKenna.
Petite information pour nous écouter. Hein, on fait ça chaque semaine, mais c'est pour vous le rappeler. Mm-hmm. Vous pouvez aller sur le site du 98.5 FM dans la section « Balado ». On est là chaque semaine, on met les balados en ligne. Vous pouvez aller sur votre plateforme de balado préférée. On est à peu près partout. Vous pouvez aller sur annuelauto.ca. Et si vous voulez nous écouter à la radio, le dimanche à 18h, on est en ondes au 98.5. Et je sais qu'il y a plein de stations du groupe Cogeco qui rediffusent aussi l'émission. Alors, enseignez-vous dans votre région. Vous allez avoir la bonne information. Avant de parler de nos essais routiers, Alain,
oui.
Un petit mot de la chronique écolo cette semaine, chronique écolo auto. En fait, on a préparé une espèce de petit guide pour mieux comprendre c'est quoi des kilowattheures versus des kilowatts versus des LE ou 100 km. Parce que là, avec l'électricité, on arrive dans des nouvelles façons de calculer la consommation d'énergie.
Les lits électriques, on a rendu ça plus complexe que pas assez.
Effectivement, puis c'est peut-être des indices qui sont importants à regarder, parce que quand on achète un véhicule électrique, il y a le site américain Cars.com là, qui a fait, je pense c'est cette semaine ou la semaine dernière, une espèce de tour des véhicules les plus économiques en énergie électrique. Tesla 3 qui a gagné, qui avait, je pense, c'est 25 kWh au 100 km de consommation d'énergie.
Mm-hmm.
C'est important parce que le kilométrage annoncé versus ce que vous allez refaire et surtout à la vitesse que vous allez recharger, tout ça va avoir une influence. Et ça, malheureusement, il n'y a pas grand gens qui le regardent. Écoute, le plus bel exemple, je suis arrêté au Madrid 2.0.
Ah oui.
Je suis allé à Québec cette semaine. Je suis arrêté faire un petit pipi, prendre une petite bouchée. Tu sais, le stock habituel.
Le petit stop, oui.
Et il y avait un monsieur tout content, le 100 kW de circuit électrique Talib, puis installé sa boat là-dessus. Mais pauvre monsieur, s'ils peuvent juste prendre 50, lui.
Ben, ils sont limités, ben oui.
Fait que là, il a payé pour 100, mais il en a eu 50. Puis
ouais.
Je l'ai pas vu. L'auto était vide, mais je me serais peut-être permis gentiment. Fait que c'est de l'information qui est importante à ramasser.
Ah oui,
parce que ça va vous donner une bonne idée. Alors, on va mettre ça en ligne cette semaine.
Surtout qu'on passe de chevaux vapeur à kilowatts,
exact.
À mégas. Il y a beaucoup de choses qu'on utilise ici dans le mode impérial. Là, faut passer en métrique parce que c'est électrique et c'est ça demande un petit peu de mathématiques. Là.
Alors, vous irez voir sur le site annuel. On a référé le texte d'Écolo Auto, puis vous pourrez aller consulter ça. Ça va vous donner une bonne idée. Tiens, on est rendu à nos essais routiers. Parle-nous donc de ce que tu as cette semaine.
J'ai essayé un Chevrolet Blazer parce que, mine de rien, il y a quand même eu pas mal de nouveaux là, pour le Blazer cette année. Il va en avoir encore plus l'année prochaine parce qu'il va avoir un Blazer électrique. Mais entre-temps, ce qu'on a, c'est un VUS, écoute, que je dirais intermédiaire selon la terminologie canadienne, parce qu'aux États-Unis, c'est un petit VUS, parce qu'eux, ils aiment ça plus gros que ça. Cela dit, pour ceux qui ont un peu de mémoire, le Blazer a déjà été le seul représentant des VUS avec le Suburban dans la gamme Chevrolet, à une époque où les VUS, c'était pas exactement 3 ventes de véhicules neufs sur 4. Là.
Non.
Évidemment, bon, il y a eu aussi, entre-temps, beaucoup de changements. Le modèle a disparu, est réapparu, a été secondé par le Trailblazer, on le disait en entrée d'émission. Bref, facile de perdre le fil. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Blazer, donc, est quelque part entre l'Equinox, qui est le plus petit des VUS de Chevrolet. En fait, c'est pas le plus petit des VUS, mais c'est un des plus petits VUS. Et le Traverse, qui est un peu plus gros. C'est aussi un VUS qui a peut-être un peu plus l'air d'un camion que d'une fourgonnette déguisée, je dirais ça comme ça. Alors que le Traverse, lui, est un petit peu plus gros, mais est un peu plus aussi minivan dans son comportement.
Ouais, ben ça se veut une alternative à une fourgonnette, là, quand on regarde
ouais.
ça. Là.
L'édition 2023 du Blazer, donc, a droit à des nouveautés assez apparentes. Là, ça comprend une nouvelle apparence extérieure et intérieure, nouvelle calandre à l'extérieur, nouvelle grille plus affirmée avec des phares à ailes. Plus moderne aussi. À l'arrière, ben, on a revu un peu la forme des feux de signalisation. À bord, c'est plus chic. Côté finition, Chevrolet a ajouté un système multimédia.
Quel modèle t'avais, toi?
J'avais le RS.
Ah oui, qui est le plus beau, à mon avis. Ouais, ouais,
il n'est pas le plus haut de gamme, mais il y a un des plus, ouais, effectivement.
Moi, je trouve celui-là, rapport qualité-prix, style, je trouve c'est celui qui est le plus intéressant.
Exactement. Puis à l'intérieur, ça paraît bien aussi.
Ouais.
On est quand même, c'est simple, mais c'est efficace. On a un système multimédia donc qui a un écran tactile de 10 pouces de diagonale sur lequel s'affiche au besoin, là, Apple CarPlay ou Android Auto en version sans fil, donc sans avoir à connecter son téléphone, ce qui est appréciable. Dans l'ensemble, là, ça donne un véhicule assez moderne. Je ne sais pas à quel point le design chez Chevrolet est un facteur d'attraction pour les acheteurs, là, mais le Blazer a quand même assez fière allure. On le remarque sur la route. Ce n'est pas toujours le cas, je trouve, les véhicules du groupe GM ont tendance, à part peut-être Cadillac, ont tendance à être assez anonymes. Mais là, dans ce cas-ci, on a essayé quelque chose d'un peu plus différent. Je vais dire un truc étonnant, l'habitacle. La famille, mes enfants ont embarqué et chacun séparément, sans se consulter avant, ont été impressionnés par l'habitacle. Donc, waouh, c'est un beau véhicule. Donc,
c'est rare venant d'un enfant, ça.
Ben, puis d'un Chevrolet. <je veux dire. rire> évidemment, il va passer beaucoup de véhicules à la maison, mais quand même, j'ai trouvé ça étonnant comme réaction. C'est confortable aussi, il y a de la place pour 4 grandes personnes, peut-être 5 si vous aimez ça être collé à l'arrière. Sous le capot, il y a deux choix. Il y a, dans la plupart des cas, un 4 cylindres turbo de 2 litres qui fait 228 chevaux et 258 livres-pieds. C'est une cylindrée qui est pas extrêmement puissante, mais qui fait la job, je dirais comme ça. Elle vient avec un système d'arrêt démarrage du moteur.
Ouais, puis c'est un bon petit moteur chez GM. Là. C'est un moteur qu'on a utilisé à toutes sortes de sauces,
oui.
mais qui s'est prouvé fiable depuis une couple d'années.
Il est très doux. Il est jumelé à une boîte à 9 rapports qui est aussi, qui renforce cette apparence de douceur-là. Là, c'est clairement pas une voiture sportive, un véhicule sportif. Ceux qui veulent un peu plus de muscles ont le choix, peuvent opter pour un V6 qui est plus classique là, chez Chevrolet,
okay.
de 3,6 litres qui fait 308 chevaux, que moi je ne recommanderais pas si j'avais à vous donner un conseil. Cela dit, attendez-vous pas à des miracles avec le 4 cylindres. Sa consommation était à peu près à 14 litres au 100 durant ma semaine d'essai. Je n'ai pas été agréablement surpris par ça, je me serais attendu à mieux. Mais sinon, bon, tout le reste est correct. Il y a un rouage intégral de mise sur toutes les versions du VUS. L'aide à la conduite est assez généreuse. Je veux dire qu'elle est un peu trop intrusive à mon goût. Le freinage automatique d'urgence pourrait, en tout cas, moi, ça m'est arrivé aux deux fois, il pourrait vous surprendre parce qu'il applique les freins très fermement, genre vraiment en mode urgence, alors que on peut avoir quand même la situation sous contrôle. dans un contexte de pare-choc à pare-choc, là, dans une circulation dense, des fois, il va décider que vous êtes trop près. Et le problème, c'est que vous freinez sec, donc vous évitez de cogner en avant. Mais la personne en arrière, si elle vous suit de trop près aussi, pourrait être surprise à l'avec. Donc, ce n'est pas nécessairement 100% sécuritaire, cette affaire-là, mais on peut le désactiver, évidemment.
Puis on le sait, dans ce segment-là, il y en a un peu un autre des VUS. Là.
Et effectivement, et ce sont... Il y a une petite surenchère de technologie par rapport à ça, parce qu'on s'est rendu compte que c'était une des choses que les gens cherchaient. Le Blazer coûte 44 000 $ en version de base. Ça peut grimper à 53 000 $ et même un peu plus avec les options. Ça peut sembler un peu élevé. Moi, personnellement, ça me semble un peu élevé pour un VUS qui tend plus vers le compact que l'intermédiaire, qui n'a pas vraiment d'avantage marqué sur la concurrence, surtout au niveau technologique, vu la consommation et le fait qu'il n'y a pas vraiment de version hybride, branchable ou qui a une composante technologique
motrice
additionnelle.
Non, parce que le full électrique s'en vient. Le Blazer électrique est à la porte.
Exactement. Donc, longue histoire courte, si vous voulez un Blazer, attendez peut-être au printemps prochain, parce que le Blazer électrique risque d'être pas très cher pour un électrique non plus.
Il risque d'être vraiment quasiment pas plus cher que celui-là. Là.
Et je pense que même il va être à peu près le prix d'une Bolt, si je me fie avec les rabais et tout. Là,
c'est ce qu'on a annoncé. Là, j'attends. J'ai des points d'interrogation pour tout ça, mais on va attendre.
Donc, à suivre.
Absolument. Moi, de mon côté, il me reste à peu près 4 minutes et demie. Je vais vous parler de la Mercedes EQE, spécifiquement le modèle 500, parce qu'il y a un 350 d'entrée de gamme. Il y a même un EQE AMG, mais là, on est ailleurs. Parce que le EQE 500, je dirais que c'est pas mal le plus intéressant des deux modèles. Bon, je vous le dis tout de suite, on va mettre les cartes sur la table. C'est 95 000 $ prix de détail suggéré pour un modèle de base, mais on sait tous que chez les Allemands, des modèles de base, ça n'existe pas. Le modèle qu'on avait à l'essai est à 120 000 $ avec les options. Donc, on parle d'un prix qui est assez solide. Il y a 402 chevaux. Vous avez 633 livres-pieds de coupe. Donc, c'est vraiment puissant, mais c'est lourd. Et ça, je dirais que d'emblée, c'est ma première critique. On sent le poids de ce véhicule-là sur la route. Écoute, t'attrapes un trou, puis t'as pas l'impression que t'as défoncé le trou. T'as l'impression que tu l'as agrandi parce que t'es trop pesant.
C'est jamais une bonne nouvelle.
Ça m'a donné cette impression de poids. Bon, évidemment, le moteur électrique est excellent. On a 90,6 kWh de puissance. C'est une autonomie qui est annoncée à 418 km. Donc, on est dans la bonne moyenne. Mais si on regarde 90 kWh pour 418 km, c'est pas une pas extraordinaire.
C'est pas la meilleure combinaison.
Tu sais, je connais des batteries de 60 kWh qui vont donner à peu près le même rendement là, au point de vue autonomie. Donc, le poids est probablement quelque chose qui va jouer. Mm-hmm. Puis moi, je l'ai eu il y a deux semaines, donc dans des bonnes conditions. Puis le mieux que j'ai fait, c'est 381 km. Puis je l'ai vidé. Bon, je l'ai pas vidé, là, mais il restait à 5 %. Il en restait vraiment pas gros. Puis je suis pas sûr que je me serais rendu à 400. Donc, ça doit être à des vitesses un peu plus basses. Il y a un chargeur rapide, donc en courant continu, de 170 kW. Donc, en 9h30, à peu près 10 heures, vous pouvez faire le plein sur une prise chez vous à la maison, niveau 2. Donc ça, c'est quand même relativement rapide. Qu'est-ce qu'on peut dire?
Moi, j'ai une question, en tout cas.
Ah ouais, donc?
Je vais l'avoir pour aller porter ma fille à son bal de finissant.
Oui.
Est-ce que c'est un véhicule pertinent dans un contexte de bal de finissant? Est-ce qu'il flash, ce
véhicule? Oui.
C'est une Mercedes.
Mais non, bon. Puis, tu me voles les mots de la bouche. Il y a deux choses intéressantes. La ligne puis la finition intérieure.
Ah bon, ben voilà.
En dedans, c'est vraiment un beau véhicule. On a mis beaucoup d'emphase là-dessus. Tu sais, je parlais de poids tantôt. 2475 kilos. Donc, tu as 2,5 tonnes. Mm-hmm. C'est lourd. Les roues arrière tournent un peu aussi dans la direction opposée aux roues avant. Donc, quand on est sur la route, ça aide à mieux braquer, à mieux prendre les courbes. Est-ce que je suggère ce véhicule-là? Écoutez, si vous êtes dans cette braquette-là à 120 000 $ c'est différent. T'sais, vous n'en verrez pas des tonnes. Mm-hmm. Moi, je vous suggère la suspension Airmatic qui est en option, mais qui améliore de loin le confort de roulement. Je pense que ça, c'est surtout avec le poids qu'on a. Donc, je pense que ça peut être intéressant. On la jette pour l'intérieur, pour la finition. Il y a un coffre de 430 litres. C'est pas énorme, mais ça fait le travail. Et bon, évidemment, l'instrumentation est belle. Le système d'infodivertissement, le M-Box, l'écran tactile OLED de 12,8 pouces. De ce côté-là, les Allemands savent faire. Ouais. Donc, si vous êtes un maniaque et vous avez Mercedes, comme dans tous les systèmes M-Box. Donc, si vous voulez un petit peu épater la galerie, vous faire plaisir, avoir un beau look, ça fonctionne.
Mais c'est pas exactement le design traditionnel de Mercedes quand même.
Non, on est un peu ailleurs. Je pense que c'est la direction qu'on veut prendre avec l'électrique. Ouais. Je dis merci à Jean-Christophe Ouellet pour avoir été là aujourd'hui. Merci Alain.
Merci
Nous,
Benoît.
On vous retrouve la semaine prochaine. Soyez prudents sur la route. Moi, je vous prépare un petit essai beaucoup plus terre à terre. On va rouler en Altima la semaine prochaine.
Voilà.
Bonne semaine à tous.
C'est 23.
Sur un chemin de campagne qui se perd à l'horizon dans le bleu du ciel, vous profitez du paysage. Votre nouvelle Toyota sillonne la route avec agilité et négocie les virages avec douceur. Rien ne peut vous arrêter. Ah, sauf la construction. Mais une chose est sûre, c'est que l'aventure vous appelle et que c'est l'occasion rêvée avec la vente étiquette rouge présentement en cours chez Toyota. Profitez-en pour magasiner votre Tundra 2024. Visitez achetezmatoyota.ca ou un concessionnaire Toyota du Québec dès aujourd'hui.